La fin des préjugés. Cette technique n'est pas vraiment une manipulation, mais plutôt une contre-manipulation. Comme un agent de contre-espionnage, vous allez profiter de la connaissance des données confidentielles de l'autre pour les corriger. Bon, disons surtout que vous allez traiter en prévention ou en profondeur les préjugés que peuvent avoir d'autres personnes. Lorsque j'ai sorti mon premier livre en 2017, mon éditrice voulait proposer comme titre « Tu es plus fort que tu ne le crois » et mettre sur la couverture des mentions voyantes du fait que j'étais présent sur YouTube et que j'étais mentaliste. Comme vous pouvez le constater, le livre s'appelle « Votre cerveau est extraordinaire ». Il n'y a pas de mention de YouTube et le mot « mentaliste » est discrètement inséré dans une phrase écrite en petite taille. Pourquoi ? Parce que je voulais éviter absolument d'ancrer les préjugés suivants. 1. L'utilisation du tutoiement. Si le titre d'un livre utilise le tutoiement, on aura tendance à se dire qu'il s'adresse à la jeunesse uniquement. Or, le savoir touche tous les âges. 2. La mention à YouTube. Ceux qui me connaissent par mes vidéos n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qui je suis. Par contre, celles et ceux qui connaissent mal la plateforme et qui ont des a priori négatifs sur ce que l'on peut y trouver ne prendront pas le livre dans leurs mains. 3. Mon statut de mentaliste. La question que l'on me pose le plus est « C'est quoi le mentalisme ?» C'est donc que ce terme n'est pas clairement défini. Ce qui veut dire que chacun a une définition très très large et qui peut jouer contre moi. Pour l'anecdote, certains libraires rangent les livres de mentalisme dans le rayon ésotérisme et sciences occultes. Le but était que les personnes prennent le livre, le feuillettent, et ensuite décident de l'acheter ou pas. C'est le contenu qui devait convaincre. Donc tous les éléments susceptibles d'être soumis à des préjugés ont été bannis de la couverture lors de ma réflexion. Vous avez compris que la première chose à faire est de manœuvrer pour éviter que des préjugés puissent apparaître. La deuxième étape est d'identifier les blocages liés à des préjugés. Plutôt que d'aller au conflit en hurlant à la personne qu'elle a tort et que ça n'est pas logique de penser comme ça, ne souriez pas, j'ai déjà assisté à des scènes de ce type, vous allez atténuer ce préjugé. Trois phases existent pour cela. Elles peuvent être combinées ou non. Première phase, pourquoi ? Utilisez le pouvoir du pourquoi. Demandez à la personne de vous expliquer son préjugé, sans le juger vous-même d'ailleurs. Après son explication, demandez encore pourquoi en partant de ses éléments de réponse. Puis, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous allez au mieux l'amener à comprendre le manque de rationnel de son préjugé, et au pire, vous lui ferez admettre que son préjugé n'est que le miroir d'une autre croyance qui n'a rien à voir. Bonus, si vous pensez vous-même avoir un préjugé sur quelque chose ou quelqu'un, demandez-vous pourquoi et répondez-y comme si vous deviez le justifier à quelqu'un d'autre. C'est une solution très efficace pour automatiser la détection de ses propres préjugés. Deuxième phase, le transfert de confiance. Le transfert de confiance est aussi simple que redoutable. Vous pouvez, toujours sans mentir, vous le savez, parler de quelqu'un que la personne admire sincèrement et qui n'a pas le même avis qu'elle. Si vous pouvez les faire discuter entre eux, c'est encore mieux. Démontrer que les personnes que votre interlocuteur trouve raisonnables ont tout un avis inverse au sien va commencer à bouleverser ses croyances. Troisième phase, les points communs. Trouvez des points communs, des ponts, entre ce qui est l'objet du préjugé et la personne à qui vous parlez. Imaginons qu'il s'agisse d'un sujet sensible, comme la présence des migrants en France. Demandez à cette personne ce qu'elle ferait si son pays était en guerre et dangereux. Demandez-lui si sa priorité dans la vie n'est pas de prendre soin de sa famille. Faites autant de parallèles possibles sans jamais devenir moqueur, accusateur ou moralisateur. Votre but doit être simplement d'ouvrir le champ des pensées de la personne. Quelle que soit la phase que vous mettrez en place, je vous recommande de toujours demander à la personne de préciser sa pensée. Moins vous parlerez et plus les idées viendront de l'autre. Si l'on me dit « Je suis sûr que ce restaurant est nul », nous sommes bien d'accord que le mot « sûr » est de trop. Si moi je veux y aller, je vais alors dire avec bienveillance « Pourquoi t'en es sûr ?» ou « Qu'est-ce que tu veux dire par nul ?» c'est la seule manière de démontrer les points de vue qui sont bourrés de préjugés. Les « je suis sûr », « c'est évident », « je suis persuadé que » sont des nids à préjugés qui tomberont si vous les auscultez morceau par morceau. Le jour où j'ai manipulé Disney. Voici une histoire qui a maintenant plus de 10 ans. Nous sommes alors en 2010 et je dois rejoindre mon ami qui travaille au parc Disneyland Paris. Il faut savoir que les employés du parc bénéficient de certaines réductions sur leurs achats et c'est grâce à cet avantage qu'elle m'avait offert un pass annuel qui me permettait d'aller là-bas quand je voulais. Ce détail a de l'importance car j'y vais en fin de journée pour passer une heure ou deux dans le parc, le temps de prendre un café et de travailler. Oui, travailler. Avec ce pass, il n'était pas rare que je la rejoigne sans faire d'attraction, juste pour le plaisir d'écrire en étant au milieu d'un décor féerique. Je prends le RER A en direction de Marne-la-Vallée. En bon parisien, depuis peu, j'ai mon pass Navigo au fond de la poche du jean. Pass Navigo réglé pour traverser toutes les zones, puisque je vais régulièrement là-bas. J'arrive enfin en gare, entre les deux parcs et le Disney Village. C'est la maison, je connais bien. Je ne me presse pas et croise comme toujours un panel de gens qui courent, des sourires, des visages épuisés par une journée intense, des étrangers du monde entier, des vendeurs à la sauvette. Bref, le microcosme naturel autour du parc. Il y a deux entrées pour le parc principal. Celle en face, dans l'alignement de l'hôtel et du château, et une plus discrète sur la droite, qu'ils utilisent aussi pour la bagagerie ainsi que pour faire sortir le public en fin de journée. Un bon habitué de chez Mickey, je me dirige donc sur la droite pour éviter les longues files d'attente de l'entrée principale. Tout en marchant, je commence à me palper partout sur le haut du corps. Un autre visiteur aurait pensé que j'étais pris d'une crise de toc ou de démangeaison. Je cherche en réalité mon portefeuille dans lequel se trouve mon pass annuel, sésame obligatoire pour actionner le tourniquet de l'entrée. Je me rends à l'évidence, je n'ai pas pris mon portefeuille. Et cette mauvaise habitude d'avoir mon pass Navigo dans mon jean m'a empêché d'en prendre conscience dès l'entrée du métro. J'aurais alors pu revenir chez moi pour le prendre. Si vous vous demandez si je l'ai perdu ou oublié, la réponse est oublié. J'ai changé de manteau le jour même et j'ai tout bêtement omis de transférer le contenu des poches de l'un dans celui de l'autre. Me voilà bien. Je fais le point. Je n'ai pas mon pass annuel Disney. Je n'ai pas ma carte d'identité pour essayer de prouver qui je suis afin que quelqu'un vérifie que j'ai un pass. Je n'ai pas ma carte de crédit pour acheter une place, ce qui ne m'aurait pas arrangé au demeurant. Mon ami termine son travail dans 2 heures et n'est pas joignable avant, et je n'ai pas 1 euro sur moi pour aller me mettre au chaud et prendre un café en attendant. Je peux aussi faire les 90 minutes en sens inverse pour rentrer chez moi, mais cette option m'agace plutôt que de me rassurer. Il ne me reste plus que 2 choses. Le fait de savoir que je sais que j'ai le droit de rentrer et mes techniques de manipulation honnête. Je fais le point. Un gentil, un pied dans la porte, un miroir et une sangsue devraient suffire. Ce ne sont pas les ingrédients d'un nouveau conte de fées, mais les surnoms que je donne aux méthodes que je pense devoir utiliser pour pouvoir rentrer dans le parc. C'est pas gagné. Le parc accueille plus de 10 millions de personnes par an, alors s'il y avait moyen de rentrer sans payer, ça fait longtemps que ce problème serait réglé. Il y a quand même une différence. C'est que je ne veux pas payer parce que j'ai un billet annuel légalement acheté. Juste oublié. Mais je n'ai rien pour le prouver ou pour justifier mon identité. Je fais un check de ma jauge de courage, je ne vous cache pas qu'elle n'est pas très haute et que je ne suis pas à l'aise avec ce que j'envisage de faire. Mais la perspective de rentrer et d'avoir fait 3 heures de transport en commun dans le froid pour rien m'envoie un peu d'adrénaline dans le sang. Je me lance. En arrivant, j'étudie le terrain. Il y a donc quelques tourniquets d'entrée, et à droite, une sorte de petite maison qui sert de bureau et de bagagerie. Je mets en place le gentil, qui consiste à me détendre, à me rappeler pourquoi tout va bien et à avoir le sourire. Un sourire sincère. Pourquoi ? Parce que personne n'a spontanément envie de parler à quelqu'un qui est triste, qui ne va pas bien ou qui a l'air énervé. Alors moi qui souhaite obtenir un privilège sans contrepartie, il faut que je sois le plus agréable possible pour que l'on veuille spontanément me parler. Je repère le responsable de cette entrée. C'est important car ce que je vais demander nécessite d'avoir quelqu'un qui ait le pouvoir de le faire. Donc autant choisir le plus haut dans l'échelle hiérarchique parmi les personnes présentes. Disney et leur tenue permettent de distinguer cette hiérarchie en un seul coup d'œil. Pour le moment, le supérieur hiérarchique est devant les entrées en train d'aider. Je pense que ce n'est pas le bon moment, car il règle nécessairement des choses. Si j'arrive maintenant, je serai un problème de plus qui se réglera d'un « désolé, ça n'est pas possible ». J'attends donc quelques minutes et il se dirige à l'entrée de la petite maison. Une fois qu'il est entré, je le suis et me poste juste devant l'entrée. J'entame la conversation avec un « pied dans la porte ». Technique qui consiste à obtenir des réponses faciles et positives avant de formuler sa vraie demande. L'engagement positif qui a eu lieu favorise les chances d'avoir un oui ensuite. Si par exemple vous demandez à quelqu'un à quelle heure passe le bus, vous doublez vos chances d'avoir un oui si vous demandez ensuite une pièce pour acheter votre billet. J'ouvre les hostilités. Bonjour, je m'excuse, je voudrais vous poser une question toute bête.
Bonjour, je vous écoute.
Est-ce que les passes annuelles sont nominatifs ?
Tout à fait. Ils sont nominatifs et personnels.
Donc, si j'ai oublié le mien, vous pouvez me retrouver avec mon nom. Je le vois légèrement embêté. Je comprends directement que ça n'est pas si simple pour me faire entrer et intérieurement, je me dis qu'il ne sait pas encore que je n'ai pas de quoi justifier mon identité. Je sais que je ne dois pas perdre mon temps, donc je vais devoir accélérer après sa réponse. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire entrer une personne sans son passe annuel.
Génial. Il a dit « nous ne pouvons pas faire entrer ». Cela sous-entend donc que c'est possible de me retrouver. Je vais enchaîner sur la fin du problème comme s'il m'avait dit que c'était possible et je vais commencer le mode miroir qui consiste à formuler ce qu'il ressent, à mettre des mots sur ce qu'il pense et sur son état. Cette technique permet de lui montrer que je suis du même côté que lui dans la partie, que ça n'est pas un combat.
Je comprends. Par contre, cela va être d'autant plus difficile que c'est tout mon portefeuille que j'ai oublié. Je n'ai donc pas de pièce d'identité sur moi, hormis mon passe Navigo qui a mon nom et ma photo. Mais je me souviens d'avoir fait la photo dans le parc lors de la création du passe. Du coup, elle est forcément rattachée à mon nom et au numéro de passe.
Oui. Malheureusement, sans le passe sur vous, vous ne pouvez pas entrer dans le parc.
Je suis désolé, je comprends. Vous ne pouvez pas prendre cette décision, même si je dois être dans vos fichiers avec ma photo.
Et je reste planté là, avec cette phrase affirmative et compréhensive.
Pourquoi ?
Parce que la sangsue a commencé. Je bloque littéralement la sortie de cette maison-bureau par ma présence physique. Il va donc être obligé de relancer la conversation pour que je me pousse, car n'oublions pas que nous sommes à Disney, devant les visiteurs qui entrent et qui sortent à quelques mètres de nous. Il va devoir réagir avec une forme de politesse propre à ce parc d'attractions.
Comme je vous l'expliquais, vous ne pourrez malheureusement pas entrer aujourd'hui.
La sangsue ne bouge pas et s'associe aux gentils.
Je comprends, monsieur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Cette question ouverte est triplement déstabilisante. Car d'une part, je garde le sourire et une posture amicale, je ne suis donc pas une menace de scandale. En même temps, j'utilise le terme « monsieur » qui lui indique que je le respecte et qui montre donc que c'est bien lui qui a le pouvoir. Mais en parallèle, je reste planté là, devant lui, en posant une question qui montre que je n'ai rien compris ou que je ne veux pas comprendre. Cette question est tellement forte que je vais la répéter 3 fois d'affilée malgré ses précisions sur le côté impossible de ma requête. À la 3e fois, il me demande de le suivre. Je me demande si ça n'est pas sa riposte pour me faire bouger, et il aurait d'ailleurs obtenu victoire car je m'écarte pour le laisser passer et le suivre. Il s'approche de l'entrée numéro 1, dit quelques mots à la jeune femme et prend une carte blanche, vierge, pour la badger sur le tourniquet et me laisser entrer. Je le remercie vivement sans m'attarder outre mesure et il me salue avec un sourire que je pense sincère. Je crois que nous ne sommes que très peu à pouvoir affirmer être entrés dans ce grand parc d'attractions sans billets. Mais le fait est que j'ai pu entrer sans argent, sans ticket et sans pièce d'identité. Pour autant, je n'ai pas été hors la loi puisque j'étais réellement titulaire d'un billet annuel payé en bonne et due forme. Les méthodes de manipulation que j'ai utilisées ce jour-là étaient honnêtes, pas bienveillantes, puisque l'objectif n'était qu'à mon bénéfice. Mais honnêtes quand même, car je n'ai pas poussé l'employé à commettre quelque chose de répréhensible. Je n'ai pas menti sur ma situation et je n'ai pas cherché à bénéficier d'une gratuité. Je n'ai pas fait croire des choses fausses à la personne en face de moi. Je n'ai pas été agressif envers elle. J'ai enfilé mes plus beaux atours de courtoisie, sincère, et de sourire, sincère. J'ai admis dès le début que si ça ne fonctionnait pas, j'allais arrêter pour laisser cet homme faire son travail. C'est toutes ces caractéristiques qui font qu'une telle série de manipulations reste du bon côté de la balance. Comme toujours, c'est les intentions et la légitimité qui font qu'une manipulation reste positive ou pas. Je ne conseille à personne d'aller à Disney et d'essayer de le refaire. En aucun cas, je vous donne une méthode ici. Mais je voulais vous partager un souvenir réel que j'avais d'ailleurs raconté dans mes premières vidéos sur YouTube, où j'essayais de transgresser une situation qui me paraissait injustifiée, même si l'on peut se dire que je n'avais qu'à prendre mon portefeuille pour ne pas avoir ce souci. Les points à retenir. Pour manipuler de manière positive une conversation, il faut ne pas chercher à extorquer, ne pas mentir sur les données ou sur son objectif, ne pas être agressif ou menaçant, être certain de la légitimité de son objectif de manière quasi objective, être prêt à s'arrêter si cela ne fonctionne pas et que la conversation n'est plus cordiale.